Bon midi, chers auditeurs de Boulevard 102.1. J'espère que vous allez bien en cette journée de prévention du suicide. Je le rappelle, 1-866-APPELLE, APPELLE. Si jamais vous vivez une problématique quelconque à l'heure actuelle, vous avez des idées noires, ça va pas bien dans votre vie, vous dites « Ah, maudit que j'en arrache puis que j'ai de la misère », appelez au 1-866-APPELLE. J'ai fait un témoignage ce matin des idées noires que j'avais le 5 juillet 2019. Et si j'avais pas justement appelé à ce numéro et j'avais pas pris soin de moi-même et appelé mon frère, mon ami Pascal, ben je serais pas en train d'animer une émission de radio aujourd'hui. Donc d'ailleurs, c'est Carl qui écrit « Bonjour mon ami, content que tu aies pris la bonne décision en 2019 ». Ben en effet, c'était la bonne décision, Carl, t'as entièrement raison. Et je suis très content de l'avoir pris. Donc pour ceux qui présentement vivent avec de la douleur interne et qui ne veulent pas en parler, 1-866-APPELLE.
Peux-tu poser une question, Jeff?
Ben oui, vas-y.
Maintenant, quand t'en parles, tu prends la parole, est-ce que tu dis « Hey, Colin, que j'aurais pas vu où j'allais être dans ces années-ci, là, en 2025, à ce moment-là. » Est-ce que toi, c'était fini, tu n'étais pas capable de te poser la question ou d'entrevoir que le bonheur allait revenir au point où nouvelle blonde, nouvelle maison, full de fun avec tes ados, nouvelle carrière.
Ouais. Tu m'aurais dit ça le 5 juillet 2019, je serais dit, voyons, tu es en train de construire un monde imaginaire.
Parce que ça, souvent, il y en a qui vont le dire, ouais. Ah, ben là, vous savez pas ce qui s'en vient, restez là, prenez soin de vous. Puis il y en a qui trouvent ça utopique un peu, là, ouais. Quand tu vas pas bien, là, des fois, d'entendre ça, tu te dis, Colin, je comprends, mais je le vois pas, moi.
T'as entièrement
toi,
raison.
C'est arrivé, mais tu as fait aussi des gestes concret par
ben
la
oui.
suite.
Ben oui, j'en ai parlé là, ce matin, là, thérapie avec un psychologue, thérapie de groupe, 20 séances de groupe de discussion avec des hommes comme moi. Tu sais, les hommes, Antonine, là, tu peux te joindre à la conversation, même si on n'a pas appuyé encore sur le bouton, le caucus Iacarini. Tu sais, des hommes que on garde tout en dedans, nous autres, les gars, c'est vrai ça, okay, qu'on garde en dedans. Puis même moi, je suis quelqu'un qui le verbalise. Ma mère trouve que je le verbalise plus que mon frère et mon père. Fait que tu t'imagines comment les deux autres verbalisent pas si moi je verbalise. Mais puis 20 groupes de discussion où tu travailles sur tes impulsivités ou tu travailles sur ton mental. Avec une dizaine de boys qui ont le même âge que toi puis qui vivent la même affaire que toi, il y a un sentiment de confrérie qui se crée, qui
t'es
est vraiment
seul,
immense.
Tu moins seul vraiment. C'est parce que c'est
vraiment.
Encore tellement tabou aussi. Puis quand tu vis ça, tu as l'impression que tu es tout seul. La solitude, elle est vraiment énorme. Puis de faire comme ça des initiatives de groupe, ça a un impact qui est très différent que de faire une thérapie. Puisque faire des thérapies aussi, c'est évidemment, ouais. c'est très important, c'est très bien. Mais l'aspect de groupe, effectivement, puis surtout chez les hommes, t'sais, parlons-en un peu là, du portrait au Québec en ce moment. Il y a des statistiques, il y a les histoires derrière les statistiques, mais il y a les statistiques aussi. C'est toujours un fléau, le suicide au Québec. Depuis les années 60, hein, il y a eu comme une grande augmentation. Mm-hmm. Après la Révolution tranquille, on peut faire nos hypothèses sur pourquoi au Québec on a des taux de suicide aussi élevés. On parle de 3 suicides par jour. Ça baisse un peu depuis le début des années 2000. En fait, 2004-2005, ça a commencé à baisser, mais pas énormément. 3 suicides par jour. C'est énorme. Ça veut dire aussi des milliers de personnes endeuillées à chaque année. Puis le deuil de quelqu'un qui s'est suicidé proche de soi, c'est extrêmement difficile. Les gens se sentent coupables. Les gens se disent « qu'est-ce que j'aurais pu faire? » C'est extrêmement difficile pour les familles. Puis en plus, avec le suicide, c'est qu'il y a un effet de contagion aussi. Malheureusement, tu as plus de chances de te suicider ou d'utiliser cette voie-là face à tes difficultés si tu as connu quelqu'un dans ton entourage.
En psychologie, là, j'avais un cours complet, une session complète là-dessus. Puis les rayons, là, même quelqu'un qui va bien, s'il y a cet impact-là dans sa vie, ça perdure même sur des années, même si la personne est lucide et comprend que ce n'est pas une solution A. Puis c'est drôle, ça me permet de faire cette ouverture-là. Puis je l'ai vu en fin de semaine, je sais qu'elle me le permet parce qu'à un moment donné, ça va venir, le Kilimanjaro, Fondation Cerveau, puis on va en jaser. Oui. Mais moi, c'est une de mes meilleures amies. Son père s'est enlevé la vie dans les dernières années. Puis je me rappelle, j'étais où, à quel moment, assise, puis qui me l'apprend. Mais c'est encore 6 ans, 7 ans plus tard, là, douloureux comme si ça faisait 6 mois, sans réponse, sans réelles explications, et les impacts relationnels que ça a fait dans sa vie, comment ça a miné ses relations autour d'elle, sentiment d'attachement, le désengagement, même la difficulté d'entrer en connexion avec quelqu'un rapidement et rapidement, je mets ça en parenthèse, là, mais tu sais, pour une relation de couple, c'en est fini son couple de plusieurs années. Essayer de rentrer en relation avec d'autres hommes, toujours un peu de la misère avec son engagement là-dedans. Ça a créé des choses où on ne se rend pas compte quand peut-être on se dit, hey, je vais libérer ma famille, je vais libérer mes amis de ma lourdeur. Non, non, bien au contraire.
Non, puis c'est bien que tu amènes ce point-là parce que moi, je l'ai raconté ce matin, puis pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, là, je le redis, mais moi, c'est le 5 juillet 2019, j'avais décidé que je mettais fin à mes jours. J'ai tout préparé dans le sol, puis j'ai eu une éclair en me disant, hey, je suis censé aller arbitrer au deck hockey, j'ai arbitré au deck hockey ce soir-là. Puis j'ai dit, faut que j'aille arbitrer au deck hockey, parce que je ne vais pas arbitrer au deck hockey, ils vont me chercher trop de bonheur. Tu sais, pour te dire à quel point mon plan est avancé. Fait que j'ai dit, je vais aller arbitrer au deck hockey, comme ça, je vais faire ça pendant la nuit. La mère des enfants, qui était ma conjointe à ce moment-là, était partie avec les gars 3 jours en camping, puis j'ai dit, ça sera la police qui me récupérera le lendemain. Ni vu ni connu. Ouf. Les gars n'auront pas conscience de ça, pis ça. Fait que j'étais là que j'étais dans ma tête. Mais quand je suis arrivé au décoquer, j'arbitrais. Là, j'avais juste la face de mes deux gars en tête. Puis j'ai la chanson des vilains pingouins, Salut salaud, qui est partie dans ma tête. Puis c'est là que j'ai décidé d'appeler de l'aide parce que je me suis dit, ça n'a pas de bon sens que je sois ce salaud-là pour mes gars.
Ça n'a pas de bon sens
que je pourrisse la vie de mes enfants de cette façon-là.
Le délai mental que ça t'a donné pour avoir un genre de pas de recul semi,
ben oui, exactement.
Ça t'a sauvé aussi.
Mais c'est hyper important, cette question de délai, parce que les gens qui pensent qu'on peut pas aider quelqu'un qui a des idées suicidaires, c'est complètement faux. On peut aider quelqu'un, puis des fois, juste de tendre la main à quelqu'un cette journée-là, tu sais pas, là, mais tu vas y avoir sauvé la vie parce que son mal-être va pas disparaître tout d'un coup. Mais des fois, c'est juste le délai que ça prend pour se faire tendre la main, puis après ça, ça mène à autre chose, un appel au 1-866 appel, etc., qui fait toute la différence. Puis, tu sais, on parlait de... Bon, le taux de suicide est plus élevé chez les hommes que chez les femmes, 3 fois plus élevé, en fait. Il y a presque autant de tentatives, en fait, hein, chez les femmes que chez les hommes. C'est juste que les hommes vont davantage jusqu'au bout, utilisent aussi des méthodes qui sont plus létales, sans rentrer dans les détails nécessairement. Mais quand on parle aussi de pourquoi c'est les hommes, ben, il y a un aspect d'impulsivité à travers ça.
Vraiment?
Les hommes sont plus impulsifs que les femmes de manière générale. Donc, justement, ce délai-là, c'est comme, OK, ça se passe maintenant, donc
c'est
irréversible. Après, ben, c'est sûr que s'il y a de la présence d'armes à feu dans la maison, des fois, il y a plus, par exemple, de gens qui ont des armes de chasse, etc., ben, il y a plus de chances, évidemment, de commettre l'irréparable à ce moment-là que des personnes qui n'ont pas accès nécessairement à ce genre de méthode-là. Puis il y a plus d'hommes que de femmes qui chassent, qui ont des armes à feu au Québec.
Martin Bourget, qui est chroniqueur ici à Boulevard 101, oui. Chasse et pêche, lui... C'est pas le collaborateur que vous allez entendre. Oh, ça va, chasse. Il est tellement intéressant puis tellement lucide. Puis il dit une des meilleures choses que vous pouvez faire chez quelqu'un, vous savez, il a des armes à feu. Si vous l'aimez profondément puis vous sentez qu'il y a une passe particulière, il vous en voudra. Mais vous n'allez jamais vous en vouloir d'avoir appelé la police pour dire hey,
absolument.
Je doute
de l'état. En fait, on est responsable. J'ai fait mon cours en fin de semaine pour maniement possession d'armes à feu parce que je veux commencer à chasser. C'est un de mes objectifs dans la vie.
Hey, j'espère que tu vas m'inviter à manger de l'orignal. J'adore ça.
Ah, je sais pas, je vais commencer par l'orignal, par exemple, Jeff, mais je te tiens au courant de mon évolution. Je pars de loin. Hein, je suis une petite citadine. Ouais. Moi, il n'y avait pas de chasseur dans ma famille, mais j'y travaille. Ils nous le disent. Vous avez la responsabilité. Si vous voyez que quelqu'un, premièrement, même a des problèmes conjugaux, on parle de suicide, mais évidemment, il y a malheureusement aussi des drames qui se passent dans les maisons. Vous avez la responsabilité de dire, écoute, on va faire en sorte que les armes à feu soient sorties de la maison. Mm-hmm. Mais ça, pour faire ça, il faut qu'on se parle. Et je pense que, tu sais, on parlait du suicide chez les hommes plus élevés. Honnêtement, moi, j'ai 41 ans. J'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui font des crises de la quarantaine. Donc, c'est un grand chapeau à travers lequel on met toutes sortes de choses.
Moi, c'est à 40 ans que ma crise suicidaire est arrivée.
Bien, c'est parce que c'est un moment de la vie où il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que quand tu n'as pas réglé aussi des choses à l'intérieur de toi, on dirait que c'est là que ça sort. Ça fait quelques années que tu as des enfants, tu es sous pression au travail, on a beaucoup de choses à payer. Bon, des fois, il y a des séparations aussi. Hein. Les hommes souffrent beaucoup des séparations, se retrouvent souvent très isolés parce que c'est beaucoup les femmes qui sont en charge du réseau social du couple. Et là, tout à coup, se retrouvent seules à la maison. La femme part avec les amis. Tu sais, c'est plate à dire, mais c'est pas par méchanceté, mais c'est comme ça. Donc, les gars, entretenez vos amitiés et demandez à vos amis comment ils vont. Puis peut-être qu'ils ne vous le diront pas du premier coup en passant. Fait qu'il faut le faire souvent. Tu sais, c'est le fun de jouer aux jeux vidéo puis aller jouer au hockey, mais il faut s'asseoir, se regarder dans les yeux des fois puis se jaser. Les filles ont fait beaucoup plus ça.
Ils sont plus dans le déni, puis ça, c'est
prouvé. Mais ils veulent avoir du fun quand ils se voient, puis on comprend, tu sais.
En fait, c'est de la recherche du plaisir éphémère. Celui qui fait du bien tout de suite.
Exact. Mm-hmm.
Mais qui sera pas, tu sais, va pas penser une plaie mentale.
Mais nous, les filles, là, on parle. Tu sais, veux pas, tu jases, tu te compares, tu te rends compte, crème, je suis pas toute seule à vivre ça, mon ami aussi a vécu ça, as-tu besoin d'aide, etc. Les femmes aussi sont plus dans le réseau de la santé. On va plus chez le médecin. Il y a comme des filets de sécurité comme ça que les hommes ont moins, plus difficile d'aller chez le médecin. Tu sais, les femmes vont être médicalisées, ne serait-ce que pour avoir leurs enfants, etc. Donc, ça fait des filets de sécurité supplémentaires. Mm-hmm. Donc, les gars, prenez des nouvelles de vos amis, mais prenez-les pour vrai. Soyez prêts à accueillir aussi les réponses. Ouais. Peut-être qu'il ne va pas répondre « Ouais, ça va bien ». Peut-être qu'il va répondre « Hey, sais-tu quoi? Je suis dans une passe tough. OK, ben on va t'aider. On va trouver des ressources. Puis pourquoi pas appeler le 1-866 appel. Même si ce n'est pas pour vous, vous pouvez le faire pour quelqu'un d'autre.
Moi, honnêtement, ça a complètement changé justement ma perception parce que quand les gens me demandaient comment tu vas, je disais toujours « Ça va bien. Hey, ça va super bien. » C'est pas vrai que ça allait super bien quand on était sur le bord de me suicider, on s'entend. Mais c'était ça pareil, ma réponse.
Tellement ton genre.
Non, mais c'est vrai. Et les gens ne pouvaient pas s'en douter. Ils disaient « Jeff, il rentre travailler, il a le sourire. Il va courir, il revient, il a le sourire. Il va prendre une bière avec ses chums, il revient, il arrive, il a le sourire. »
Personne n'a rien vu.
Non, pas vraiment. Je l'ai caché tel un gars qui refoule tout à l'intérieur. Mais maintenant, je me permets de le dire.
Pourquoi tu le cachais, Jeff?
Ben, je pense que c'est la honte. Clairement, la honte de ne pas filer. Je voulais pas être un boulet pour mes amis. Je voulais pas être celui qui arrivait et que quand il était là, il cassait le party puis j'osais toujours de ses problèmes.
C'est parce que quand tu recevais ça avant de quelqu'un d'autre, tu sentais que c'était un peu lourd puis tu savais pas quoi faire avec.
Je saurais pas te le dire. C'est vraiment, là, moi, là, pour de vrai, ça déboule rapidement aussi. Okay. À un moment donné, tu t'en rends comme pas compte puis t'es arrivé à dire « OK, ça va être fini ». Puis on dirait que ça s'est fait dans un laps de temps.
Tu le vivais, ça montait, ça s'accumulait, mais tu le laissais de côté dans le genre de déni, justement,
en
de plaisir
ça.
Éphémère du quotidien.
En disant, bon, ça va passer. Mais moi, dans les faits, ça faisait un an et demi que je vivais avec une boule sur l'estomac. Tu sais, quand t'es nerveux de quelque chose, physiquement, moi, ça faisait un an et demi que je vivais avec ça. Fait que c'est un peu ça aussi qui fait en sorte, puis tu sais, que je me disais, hey, regarde, là, ça fait un an et demi là, que t'sais, ta vie, là, t'es pas heureux. Là, fait que regarde, va-t'en.
T'avais plus d'espoir.
Exactement. Dans ta famille, il y avait cette ouverture-là à discuter de ses émotions?
Oui, il y en a toujours eu, surtout chez ma mère. Ce qui m'a surpris, moi, qui m'a étonné, c'est qu'une fois que j'ai appelé le centre de prévention du suicide puis que j'ai commencé la thérapie, tout ça, je me suis assis avec mon père pour en jaser. Puis j'ai appris à ce moment-là que mon père avait déjà été suivi par un psychologue, il n'en avait jamais parlé. Puis il m'a même dit, fait que là, ma mère doit m'écouter à la radio,
ça
fait que je m'excuse pas, maman le sait peut-être pour la première fois. Mais il a dit, parle-en pas à ta mère. T'sais, fait que je suis un peu comme mon père.
Même
moi,
à ta femme, c'est dur. Hein,
ouais. Ben, tu sais, moi, mon ex-conjointe, j'en ai pas parlé.
Pourquoi?
Je veux dire, je suis arrivé là.
Tu te sentais comme le pilier de la famille?
Oui, exactement. Puis il y avait beaucoup aussi à l'intérieur de ça, de remords, parce qu'à ce moment-là, je me rendais compte que je voulais me séparer, mais mon frère t'a pas séparé, mes chums t'a pas séparé, mes parents t'a pas séparé. Puis là, je me disais, ça n'a donc même pas de sens. Moi, je veux faire ça à mes enfants.
Tu te sentais dans l'échec, probablement.
Dans l'échec total. J'avais décidé de retourner travailler pour des organismes communautaires qui faisaient en sorte que ça me donnait une énorme diminution de salaire. Puis ça, le changement de rôle aussi dans la famille, j'avais pas bien évalué ce que ça allait faire. Dans le sens que, tu sais, moi, là, avec les jobs que j'avais, là, OK, les enfants, voulez-vous aller à Walt Disney? Oui, parfait, on réserve Walt Disney. On est parti.
Puis là, c'était plus ça.
Ouais, là, c'était plus ma présence. Puis en fin de compte, la présence est bien plus importante que Walt Disney, tu comprends?
Initialement, ton changement de cap professionnel, c'est-tu parce que tu disais, crime, j'ai envie de prendre soin de moi mentalement aussi? C'était beaucoup de charges, de gestion.
Ah, vraiment, initialement, c'est parce que je
suis. Ça a amené la charge financière. Après,
en plein ça.
Genre d'effet boomerang. Ouais. Oh.
Initialement, moi, le changement de travail, c'est parce que j'avais pris la décision. J'étais allé voir un psychologue orienteur. j'étais plus bien dans qu'est-ce que je faisais. Ça faisait des années que je gérais du service à la clientèle, du département des plaintes, puis là, me faire appeler par des clients sur mon cellulaire le samedi matin qui sac, ça me tentait plus. Et puis, ça a sorti hyper fort le côté bienveillant, mm-hmm. le côté don de soi, tout ça. Fait que la psychologue orienteur me disait, hey, tu devrais retourner travailler dans les organismes communautaires.
Ça t'sais, va te nourrir en même temps que ça donne un sens.
Puis quand tu me parles de l'organisme communautaire, tes yeux illuminés, puis tu le quittes, je me disais, ouais, mais Caroline, l'organisme communautaire m'a gagné le quart du salaire que je gagne, ça n'a pas d'allure. T'sais. Finalement, avec ma conjointe, on a décidé que je le faisais quand même. Puis, je ne le regrette pas du tout. Là. Ça a été une des très, 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 très bonnes décisions dans ma vie. D'ailleurs, ils m'ont accompagné de façon impeccable. Là. Je salue Carole et Yann qui m'ont accompagné dans cette épreuve-là de façon impeccable.
Mais engrenage tout ça, quand même.
Mais tout
complet.
Ça, tu sais, changement de rôle. C'est ça, changement de rôle, moins bien dans ma relation sentimentale.
Tu sais, dans cette passe-là, Jeff, j'ai une question parce que ça va aller chercher tous les commentaires qu'on reçoit au 88-97.
Oui, en passant, vous
aussi.
Êtes super généreux là, d'en faire. Merci beaucoup.
Puis je vais être très transparente. Mes derniers meetings de groupe qu'on a eu à Boulevard 101, j'ai pris la parole puis j'ai dit, hey, en passant, je vais juste ramener quelque chose parce que je pense que la transparence, l'honnêteté de se dire les vraies choses, ça doit primer. Mm-hmm. Ça doit primer parce qu'après, les perceptions, le radotage, le potinage, l'interprétation, le travail en silo, ça peut vraiment miner, puis ça peut finalement être super lourd sur quelqu'un quand la personne, elle s'en rend pas compte. Puis j'ai dit, soyons transparents les uns envers les autres. On sait pas ce qu'on vit. Moi, je sais pas ce que Denis vit. Je sais pas ce que Yann vit. Peu importe, dans l'équipe. Puis j'ai dit, vous êtes pas obligé de vous confier. Mais soyons toujours aux aguets de se dire, hey, OK, telle personne réagit X aujourd'hui. Mm-hmm. Pas dans le jugement, dans, oh, ça doit être une mauvaise journée. Puis après ça, sinon, de l'appliquer à la conversation. Toi, quand t'allais pas bien, mm-hmm. T'avais-tu l'impression que tes comportements avaient changé puis qu'on pouvait te juger là-dessus puis qu'au final, c'est juste parce que t'allais pas bien ou, tu sais,
J'avais-tu cette impression-là? Pas vraiment. Je reviens à ce que j'ai dit tantôt. Moi, je voulais pas être un boulet pour personne.
Tu faisais vraiment exprès d'aller bien.
Mais je sentais quand même que j'étais un boulet, tu sais, dans le sens que quand j'avais le goût de raconter des choses, c'était toujours des choses qui me faisaient de la peine, qui me fâchaient, Fait que, t'sais, c'est ce qui m'avait mené à ces idées suicidaires-là, de dire hey, écoute, dans le fond, je suis un boulet pour ma blonde, je suis un boulet pour mes enfants, je suis un boulet pour mes chums, je suis un boulet pour ma job. T'sais. Fait que c'était un peu ça, puis c'était une vision très, très, très noire et négative là, de ma vie, mm-hmm. parce que dans les faits, j'étais pas ça. Là. Il y a pas mal de monde qui me l'ont dit quand j'ai raconté mon histoire, que dans les faits, j'étais pas ça, puis ça m'a fait du bien. Là. Mm-hmm. Mais ça, puis je le dis ouvertement, t'es allé chercher de l'aide. On parle du 1-866 appel, qu'on parle de psychologue. Moi, je le dis très ouvertement, je suis médicamenté pour des troubles anxieux, des troubles d'impulsivité, c'est juste parfait pour ma vie, puis je m'en passerais pas.
Écoute, une personne sur trois dans sa vie va avoir des troubles anxieux ou va vivre une dépression. Donc, il faut vraiment pas avoir honte, puis il faut aller tout simplement chercher l'aide dont on a besoin. Puis quand on se met à en parler autour de soi, on se rend compte que finalement, il y a un paquet de monde qui vivent la même chose, chacun de son côté. Puis on dirait qu'il y a un poids sur les épaules qui s'en va quand on prend la parole.
Je remercie tous les gens qui nous textent à l'heure actuelle, des gens qui nous disent « Ouais, les hommes sont formés pour être forts socialement. » Oui, mais on n'est pas forts, les hommes. Fait que demandez de l'aide, s'il vous plaît. Une personne qui marque « J'ai vécu », Nadine qui marque « J'ai vécu la même situation que toi, Pascal. Le papa de ma meilleure amie s'est ôté la vie il y a 5 ans. C'est dur à accepter. Je n'oublierai jamais l'appel de mon amie quand elle m'a annoncé et où j'étais. Ah, je comprends tellement. Ici également, on a un très beau témoignage de « Merci de parler de prévention du suicide. J'étais enceinte de ma fille quand ma sœur s'est suicidée, mes sympathies. Et oui, sa brise est survivant pour toujours. Demander de l'aide quand on ne voit que du noir, ce n'est pas une faiblesse, c'est signe de courage. » Et en effet, c'est la première chose que le psychologue me dit. Mais là, tu es assis avec moi, là, il dit « Je veux pas que tu vois ça comme un signe de faiblesse, t'es courageux. » Il y a plein de gens qui s'assoient pas, qui prennent pas le temps de venir s'asseoir avec moi. Puis dans mes groupes de discussion, on parlait de prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Ça résonne très bien dans mes oreilles. Puis pour conclure sur le sujet, honnêtement, maintenant, j'en parle quand je vais pas bien. Ça permet à mon entourage de le savoir. Ça permet à mon entourage de discuter avec moi. Et ça permet aussi de montrer que je suis humain, que je suis pas toujours « Ah, ça va bien, la vie est belle! » Et avec ma gang de chums, ça a tout changé parce que maintenant, quand on prend une bière chez Gérard ensemble, la gang de chums, quand quelqu'un nous dit « ça va bien », pour de vrai est notre réplique. explique-moi pourquoi ça va bien. Fait qu'on est rendu tannant de même.
Même dans le beau, vous voulez savoir pourquoi c'est beau.
Exactement, parce que s'il y a une petite crotte qui est sur le cœur, elle va sortir aussi. Ouais. Surtout après trois peines chez Gérard, là, les crottes sur le cœur sortent.
Ça
tout
sort
temps,
toutes.
Là.
C'est bon.
Exactement.
Ça.
Fait que merci, merci pour vos témoignages. Martin qui écrit Jeff, ton parcours et le mien sont similaires. Martin, félicitations. Félicitations de t'en être sorti, toi aussi, franchement. C'est extraordinaire. Puis si j'en parle, et si j'en parle autant, c'est parce que je le sais qu'en parlant, on sauve des vies.
Oui.
Hier, j'ai fait un post Facebook là-dessus. J'ai immédiatement une personne qui m'a texté pour dire « Hey, c'est du quoi je file pas? » C'est un 866 appel, hein? Je vais appel. Puis il m'a retexté après pour me dire « Hey, c'est fait, j'ai appelé. » Puis je m'en vais consulter telle ressource demain. Ben,
imagine
parfait.
L'impact. Juste un statut Facebook, juste de donner le numéro d'aide, comment tu peux sauver des vies. Fait que l'importance d'en parler. Puis c'est à ça que ça sert, cette journée-là,
ben oui.
La journée mondiale de prévention. Tu sais, des fois, on se dit « Ah, les journées thématiques. » Non, non, celle-là, puis la semaine de prévention du suicide plus tard dans l'année. Hyper important.
Puis je sais que tu es à la salle d'entraînement présentement, mais je salue ma conjointe Val qui, ce matin, je connaissais ton histoire, mais j'avais les larmes aux yeux quand tu l'as raconté à la radio et qui m'a écrit « Je suis content que tu aies eu la chienne le 5 juillet 2019 parce que je ne vivrai pas le bonheur que je vis avec toi. » Donc, Val,
bien
je te salue et je t'aime beaucoup. Passons maintenant au caucus.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonin Iaccarini.
Merci les filles pour ce beau partage d'émotion.
Ben merci à toi surtout
ça
de partager.
Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci à toi, on a pris dans ton caucus Iaccarini.
C'était pour
même
une bonne
si
cause.
On voulait en parler dans le caucus Iaccarini. Bon, par où commencer après tout ça? On va commencer par le remaniement ministériel, Antonine, si tu me permets bien. Énormément de changements. Qu'est-ce qui retient ton attention en premier lieu?
Bon, d'abord... À peu près tout est sorti. Là. Moi, j'ai un conseil des ministres complet sur mon plan de chronique présentement. Écoute, il y a des perdants, il y a des gagnants. Je dirais que la première chose qui me frappe, si ma liste se confirme, c'est que le premier ministre n'a pas réussi à rétrécir son conseil des ministres.
Ouais, ça, il l'avait promis pourtant.
Bien, il l'avait-tu promis? Tu sais, moi, je fais attention aux promesses, là, mais je pense que c'était un objectif.
Ouais, il y en avait parlé, je pense.
Bien, c'est parce que là, dans les messages qu'il va avoir dans son discours d'ouverture en octobre, il y a le message de l'efficacité.
Ouais.
On est dans les déficits. On veut contrôler les dépenses. Donc, tu veux donner un peu l'exemple en ayant un conseil des ministres qui est rétréci. Bon, là, je veux juste dire quelque chose de vraiment, c'est un détail. Là. Mais on dit toujours des limousines. Hein? On veut réduire le nombre de limousines. Ils n'ont pas des limousines. Je veux pas que les gens pensent qu'à la maison, là, que le monde se promène dans des grands limousines avec du champagne puis un toit ouvrant. Okay, c'est pas ça, les voitures de fonction.
Ils sont pas sur la brosse à longueur de
journée. Non, non, non. Puis il n'y a pas de spa dans la limousine et tout ça.
Je vais faire une blague de mauvais goût.
C'est des vannes.
Ouais, mais je vais faire une blague de mauvais goût. Des fois, avec les décisions qu'ils prennent, on dirait qu'ils sont sur la brosse.
Oh, ça, ah, oui, je comprends. Je comprends. Je comprends. Mais c'est pas à cause des voitures de fonction. Ce sont des Toyota Sienna, d'habitude. OK? Les voitures de fonction. Fait qu'on va arrêter de dire le mot limousine. Donc, pas de réduction de grosseur du Conseil des ministres malgré les efforts et malgré qu'on a sacrifié des gens. Là, selon ce que je vois dans mon casse-tête, dans mon pool, bon, évidemment, François Bonnardel, on savait déjà. Il y avait André Lamontagne et Suzanne Roy qui avaient annoncé déjà d'emblée qu'ils se retiraient par eux-mêmes. Peut-être qu'ils auraient de toute façon perdu leur poste. Qui sait? Donc, il y a, pour l'instant, là, selon mes sources, Maïté Blanchette, qui était ministre des Ressources naturelles, que là, moi, je la vois nulle part en ce moment dans toutes les sources d'informations.
Est-ce qu'elle paye le prix en raison justement de l'insatisfaction par rapport à son projet de loi sur les forêts?
Écoute, il y a de l'insatisfaction, il y en avait dans tous les ministères, pour être bien honnête. Fait que je pense qu'elle a juste perdu à la chaise musicale, tout simplement. Il y a sa voisine de circonscription, Amélie Dionne, qui est une députée très active et très appréciée, qui devrait faire son entrée aujourd'hui au Conseil des ministres, donc représentation régionale du côté du Bas-Saint-Laurent. Puis Gaspésie aussi, parce qu'il n'y a pas de ministre responsable à Gaspésie depuis 2022. Donc, si Amélie Dionne fait son entrée au Conseil des ministres, elle serait pour le portefeuille du tourisme et elle serait certainement le ministre responsable de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. La deuxième affaire qui me frappe après la grosseur du Conseil des ministres, c'est si ma liste se confirme, on est soit très, très short pour avoir une parité ou on l'a pas. Là. On n'est pas dans la zone paritaire.
Penses-tu que ça va faire une tollée? T'sais, on a souvent dit que la CAQ, c'est un boys club, justement, avec Koskinen et Legault qui mènent la charge.
Ben, cette étiquette de boys club que la CAQ porte, que je trouvais pas toujours justifiée, pour être honnête, parce qu'il y a eu vraiment un effort de recrutement de candidatures féminines en 2022. Il y avait une parité, il y avait des femmes dans des postes très, très importants, vice-première ministre aussi, etc. Mais c'est vrai que l'équipe plus autour du premier ministre. C'est, mettons, quand on se dit, OK, le premier ministre, là, quand il a besoin de conseils, il appelle qui? Ben, c'était Martin Koskinen, Christian Dubé, Éric Girard, Pierre Fitzgibbon. C'était ça l'idée du Boys Club. C'est pas qu'il n'y avait pas la parité comme telle. Maintenant, ben, on arrive avec cette symbolique de la parité au Conseil des ministres qui n'est plus là. Ben, c'est sûr qu'il y a un terreau fertile pour les critiques parce qu'on avait déjà un peu cette trame de fond de Boys Club à la CAQ. Bon, on verra. Il y a quand même des femmes qui auraient des promotions. Là, si on regarde un peu les noms. Bon, on va faire un peu le tour si tu veux,
ben oui, vas-y.
Jeff. Dans ceux qui ne bougent pas, Christian Dubé à la santé, Éric Girard aux finances, Christine Fréchette, économie énergie, Jean Boulay au travail, Lionel Carman aux services sociaux, Mathieu Lacombe à la culture, Simon-Jeanin Barrette devrait garder le portefeuille de la justice. Éducation, on a vu Bernard Drainville, c'est sorti là, dans les médias, qui s'en irait à l'environnement. C'est pas exactement une promotion, puis c'est pas exactement un dossier facile. Et ce serait peut-être Sonia Lebel qui prendrait le relais à l'éducation. Donc, pour Sonia Lebel, était au Trésor, c'était quand même prestigieux, mais éducation, c'est un gros morceau aussi.
Penses-tu, et là, je parle de Sonia Lebel et de, justement, Bernard Landry. De un, Sonia Lebel à l'éducation.
Drainville.
Drainville, oui. Landry. Landry, quel lapsus!
Mais c'est drôle, parce que j'ai pensé à lui ce matin, fait que j'ai failli le laisser passer, puis je me suis dit, non, c'est pas Bernard Landry.
Sonia Lebel à l'éducation. Sonia Lebel, c'est une femme très cartésienne. C'est une ancienne procureure. Moi, pour moi, ça m'apparaît être un bon choix parce que l'éducation a besoin d'être recentrée, recadrée.
Oui, puis elle a de l'expérience avec les syndicats parce qu'au Conseil du Trésor, tu gères les négociations avec les syndicats. Donc, elle a quand même une expérience de ce côté-là. Elle est reconnue aussi pour dénouer des situations qui sont complexes, pour pas polariser, mettre de l'huile sur le feu, etc. Donc, on verra. C'est sûr, c'est pas un dossier facile. Une autre ministre qui a une promotion, ce serait France-Hélène Duranceau. On s'en parlait un peu plus tôt cette semaine de France-Hélène Duranceau. Que ça avait brassé à l'habitation, qu'il y avait eu plusieurs gaffes de son côté. Puis on sentait là, dans ce que le cabinet du premier ministre spinait, donc dans les couloirs, qu'il préparait le terrain pour dire que non seulement elle restait au Conseil des ministres, mais elle se retrouverait au Conseil du Trésor, Francine Duranceau. Donc ça, c'est quand même passer de l'habitation au Trésor, c'est une promotion.
Est-ce que ça te surprend, puis je reviens à Drainville et non Landry, à l'environnement? Bernard Drainville a toujours été le gars qui faisait les jobs de bras pour François Legault.
Oui.
À l'environnement, là, il y a une job de bras à faire que Carney a commencé, c'est les véhicules électriques. Penses-tu que Drainville est là pour ça?
Oui, c'est un bon soldat, Bernard Drainville. C'est sûr que la première chose que tout le monde s'est dit en voyant que Bernard Drainville s'en allait à l'environnement, c'est sa phrase qu'il avait prononcée pendant la campagne électorale. Et il y avait un contexte, le pauvre, mais tu sais, quand ça part...
Lâchez-moi avec ça, les chars vont être électriques, fait que le troisième lien,
lâchez-moi
ça créera
avec
pas
les GES.
Des GES.
Bon, donc ça, c'est la première... Je sais pas combien de personnes m'ont texté ça hier soir quand c'est sorti, cette phrase-là. Donc, il va falloir qu'il... En fait, il part avec un petit déficit de crédibilité sur la question de l'environnement. Mais Bernard Drainville, c'est un ministre qui, quand il prend un dossier, il le prend vraiment au sérieux. Donc, il travaille presque 24 heures sur 24. Là, j'exagère un peu, mais à peine.
Il
c'est quelqu'un qui est workaholic.
Député, là, dans le coin de Montréal, c'était la même chose qui sortait. Au début, là, un poste de député, c'est pas la même chose que ministre.
Non, non, non.
Il était déjà à fond la caisse.
Oui, dans l'opposition, il faisait un travail de feu. J'ai travaillé avec M. Drainville. Je peux vous dire que des fois... j'y étais rendu 22h30, puis j'étais comme là, on peut-tu fermer
même affaire dans les médias,
aujourd'hui?
Parce que moi, j'ai travaillé avec dans les médias, c'était la même chose.
Non, mais il travaille comme un malade, donc il va faire son travail en environnement de manière vraiment rigoureuse, mais c'est sûr, encore une fois, l'environnement, la CAQ, c'est un peu compliqué. On est dans un contexte aussi qui dépasse le Québec, même là, sur le côté de l'environnement, on sent qu'il y a comme un retour du pendule, il y a moins d'acceptabilité des changements d'habitude, tu parlais des véhicules électriques, là, on part dans des projets d'hydrocarbures au niveau fédéral, etc. Donc, il va y avoir un travail quand même d'équilibriste à faire pour M. Drainville. Un autre qui a une promotion, Jonathan Julien, qui était aux infrastructures et qui, là, se retrouverait au transport, selon toutes les sources.
Celle-là, honnêtement, elle m'a étonné. Et là, quand on parlait ce matin dans le Marceau le matin, Yannick Marceau a dit, d'après moi, Julien, il est juste là parce que ça va être Koskinen qui va gérer en arrière pour s'assurer qu'il ne se passe plus rien. Et Jonathan Julien va être le gars up front. Moi, j'ai dit, Jonathan Julien, c'est un gars d'équipe.
Oui.
Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il a accepté de se tasser pour laisser la place à la ministre Guilbeault dans le dossier du troisième lien et du tramway, alors que c'est de la capitale nationale. Il a toujours joué le jeu d'équipe.
Il défend les positions du gouvernement auprès de tout le monde. D'ailleurs, c'est un peu ce qui a fait en sorte que c'est devenu difficile dans la capitale nationale.
Hein? Ben oui.
T'sais, à un moment donné, tu as le choix. Soit que tu pousses du côté de ton gouvernement... en portant la voix des acteurs régionaux, ou soit que tu pousses un peu les décisions du gouvernement sur les... Ben, c'est un peu des deux là, à la fin de la journée, mais c'était un excellent soldat.
C'est un excellent soldat. Fait que d'après moi, de le mettre là, c'est qu'on va aussi lui donner des gens compétents pour qu'on réussisse à reprendre le contrôle. Et comme c'est un gars d'équipe, ben, il va suivre les directives. Je me trompe-tu?
Non, je pense que c'est à bonne place. Par contre, il ne serait pas ministre responsable de la région. La rumeur veut que ce serait Jean-François Simard, député de Montmorency, qui hériterait d'un autre dossier aussi que la capitale nationale. Ce que j'entends, c'est ressources naturelles, mais je sous toute réserve. Donc, un nouveau visage. Ça peut changer la dynamique. Premièrement, Jean-François Simard, c'est quelqu'un qui est extrêmement gentil. C'est un gars qui est très humain, qui est vraiment axé sur jaser avec les gens, etc. Est-ce que ça va mettre une nouvelle dynamique? Parce qu'on le sait que ce n'est pas toujours facile à Québec, entre la CAQ, entre l'administration Marchand. On a des députés de QS, on a un député du PQ. On ne marche pas tous dans la même direction, et pour le meilleur et pour le pire. Donc, d'avoir un nouveau visage comme ça, un gars très, très humain, est-ce que ça peut aider à la relation entre le gouvernement et la ville, peut-être?
Son passé au PQ, est-ce que ça pourrait faire en sorte, parce qu'en capitale nationale, on a déjà vécu le fameux trio Agnès Maltais, Sam Hamad, Gérard Deltel, qui travaillaient les trois mains dans la main, même s'ils étaient pour trois partis politiques différents, pour faire avancer la capitale nationale. Son passé au PQ pourrait-il faire en sorte que, justement, créer des liens avec Pascal Paradis, mais aussi certains liens avec Étienne Grandmont et Sol Zanetti, compte tenu qu'il est peut-être un petit peu plus à gauche sur l'échiquier politique?
Écoute, j'aime ton hypothèse. Par contre, on est en année préélectorale. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de quartier les uns envers les autres. Je ne m'attendrais pas à une super collaboration. Des fois aussi, les anciens péquistes qui sont partis à la CAQ, ben, ça peut provoquer plutôt de l'animosité et pas nécessairement des affinités comme telles. En fait, on verra. C'est quelqu'un qui était apprécié à l'Assemblée nationale, M. Simard, qui était président de commission parlementaire et qui faisait un travail très transpartisan avec les autres partis. Mais là, une fois qu'on devient ministre de la capitale nationale puis qu'on commence à parler de tramway puis troisième lien, ben là, tu tombes dans la politique solide.
Exactement. Il n'y aura pas de partisanerie là-dessus. Je termine le caucus Iacarini avec ceci, chère Antonine. François Legault est le premier ministre le plus détesté à l'ensemble du Canada. Il n'y a pas de vice-première ministre. Est-ce que François Legault prépare son départ et laisse, mais pas personne à l'avant-plan pour que cette fameuse course à la chefferie-là, tout le monde parte sur la même ligne de départ?
François Legault a trôné pendant un bon moment au sommet de la liste des premiers ministres des provinces.
Pendant la COVID notamment.
Pendant la COVID, puis ça en était quasiment indécent. On avait des taux de satisfaction soviétique et nord-coréen pendant un bout de temps. Là, il est vraiment en queue de peloton, bon dernier à 22 %. Est-ce que le fait de ne pas... Puis là, encore une fois, sous toute réserve, on n'a pas de nom qui circule pour vice-premier ministre ou vice-première ministre. Tu posais l'hypothèse, est-ce que, par exemple, c'est parce qu'on ne veut pas faire de favoritisme envers un successeur potentiel à François Legault? J'aime l'hypothèse, mais je me dis, il y a quand même encore quelques heures dans la journée, puis nommer un vice-premier ministre, c'est pas comme si tu revirais un ministère de bord. Là. C'est assez facile, il n'y a pas de ministère qui vient avec, fait que tu peux bien te décider à la dernière minute.
Oui, parce que si je suis premier ministre, je peux te nommer vice-premier ministre 2 minutes avant de rentrer.
Ça ne change pas grand-chose. Faut juste peut-être changer les documents. Là. Peut-être que le lieutenant-gouverneur va courir un petit peu, mais c'est pas bien grave, tu réimprimes le document, puis c'est pas plus compliqué que ça. C'est peut-être ça, mais moi, ce que j'entends vraiment, c'est que le premier ministre est déterminé à ne pas quitter. Est-ce que ça va être le cas? Est-ce que vraiment on va avoir un François Legault en 2026 au débat des chefs dans un bus de campagne? Pour l'instant, c'est dur à imaginer.
Oui.
Mais il va faire son opération remaniement. Il va avoir une nouvelle équipe. Est-ce que ça va donner ce nouveau souffle tant attendu? Il y a beaucoup de gens qui doutent, mais qui sait. Donc, on verra. Moi, le fait de ne pas nommer de vice-premier ministre, effectivement, je vois une certaine prudence aussi, parce que si on nomme Simon-Jolin Barrette ou Sonia Lebel ou Geneviève Guilbeault, ben c'est sûr que ça donne un petit avantage, mais vice-premier ministre, dans le fond, ça fait quoi, là, en dehors de la pandémie? Parce que pendant la pandémie, ça avait un impact. Mm-hmm. Mais maintenant... Maintenant, ça change pas grand-chose.
C'est un rôle plus symbolique que d'autres choses, c'est ce que tu nous dis.
Ben, absolument.
Excellent. Antonine, on se reparle demain?
À demain.
Demain, on va avoir une petite visite à midi. Pascal Paradis, député de Jean Talon pour le Parti québécois, va venir justement commenter ces changements-là au Conseil des ministres et lui, comment il voit justement l'avenir de la capitale nationale. Puis après ça, on fera le petit caucus Iaccarini de midi 15 à midi 45. Ça te convient?
Certainement.
Magnifique. Tu vas pouvoir participer à l'entrevue avec un immense plaisir. On s'arrête un court instant. Par la suite, Pascal, tu es allé voir des restaurateurs qui en ont plein les bras.
Oui, je l'en aurais adressé un petit mot de ce qui se passait au niveau de la construction aussi à Québec. Je pense que tout le monde est impacté, que tu sois automobiliste, que tu sois commerçant, que tu sois travailleur ou comme le réseau de transport de la capitale. En ce moment, ce qui se passe au pont, c'est très complexe. Imaginez quand on n'est pas capable de se rendre à votre commerce. Puis ça, c'est jusqu'en 2027. Il y en a qui en ont long à dire.
Il y en a qui en ont long à dire et il y en a qui peut-être bien vont fermer leurs portes justement à cause de ça. Si je ne m'abuse, la Fenouillère a fermé ses portes là, dans le coin. Alors merci Pascal de nous avoir préparé cet excellent dossier qu'on suit après cette courte pause, vous êtes à On en jase sur Boulevard 102.1. On en jase jusqu'à 15h.